Vous êtes prêt à me suivre à 15 000 km de notre bonne vieille Europe? C'est la distance que Jacques Brel a mise entre lui et les hordes d'admirateurs et de journalistes qui pesaient sur sa carrière. D'où un éloignement drastique dans ce qui a pu ressembler à un exil ou une retraite consentie. J'ai bien saisi cet éloignement en allant à la rencontre de sa nouvelle famille de cœur au fin fond de la Polynésie française. Les heures de vol ne faisaient pas peur au pilote Jacques Brel. Comment voyait-il le ciel ? Et là, je parle aussi de celui auquel les croyants mettent une majuscule. Voici Brel.
Aux marquises,
parmi tous les grands chanteurs francophones des années 60, Jacques Brel fut sans doute l'un des plus acharnés à vouloir brûler les planches, en intensité et en quantité. Comprenez qu'il alignait gala sur gala, tournée sur tournée, se produisant même quand il le pouvait en matinée et en soirée. C'est un métier où l'on parcourt souvent de grandes distances sur les routes, de ville en ville, d'où une fatigue que Brel a voulu estomper en s'initiant à l'aviation. Avec son petit avion, il gagnerait un temps précieux d'une étape à l'autre.
Il y a beaucoup d'artistes qui font de l'aviation privée, donc de tourisme.
Jean Liardon, l'instructeur suisse de Jacques Brel.
Mais disons, l'aviation donc professionnelle, vol aux instruments tels qu'on l'enseigne chez nous, demande d'abord des études assez longues. Donc ça va entre 6 mois jusqu'à 18 mois de formation, ce qui est déjà très long, donc il faut être très disponible pour le faire. Ce sont des cours à plein temps, donc qui ne donnent pas tellement le temps de faire d'autres choses en parallèle. Donc c'est un petit peu contradictoire avec la vie d'artiste. Quoi.
À quel moment alors vous a-t-il surpris et vous a-t-il prouvé qu'il avait vraiment quelque chose derrière la tête ?
Parce que quand il parlait l'anglais, il faut dire qu'il avait énormément de peine à parler l'anglais. C'était horrible pour lui. Et il a dû faire un très grand effort vu que toutes les communications radio sont en anglais. Et là, vraiment, il a dû s'y mettre. Et il y a des choses qu'il apprenait avec beaucoup de difficultés. Par exemple, le morse, ce n'était pas quelque chose qui lui plaisait non plus. Et le pire, c'est que les leçons de morse, en général, chez nous à l'école, sont le matin, quand on est frais, à 8h, 8h30. Alors, pour lui, qui avait un rythme de vie où on se couche plutôt à cette heure, où il fallait commencer à apprendre le morse, il était toujours un petit peu en contre-temps dans toute l'histoire. Donc ça lui a posé des problèmes. Et une fois que les cours théoriques étaient terminés, alors dans le vol, disons, d'un côté pratique, là, il a eu, disons, relativement de la facilité pour le faire. Donc, à peu près 6 mois après qu'il ait commencé, il a eu sa licence professionnelle. Et encore une fois, 6 mois plus tard, il a eu son vol aux instruments. Donc.
Du pilotage en dilettante à l'aéronautique professionnelle, Brel n'a eu de cesse que de perfectionner la pratique de sa nouvelle passion. Une passion qui allait l'introduire dans un milieu bien différent du show business, celui des aviateurs, avec tout le parfum d'aventure que le métier peut encore dégager lorsqu'on l'exerce dans le Pacifique. À l'aube du 31 juin 1976, le commandant Michel Gauthier se dirige vers l'appareil d'Air Polynésie qu'il va piloter entre Tahiti et les Marquises. Cela se passe sur la piste de l'aéroport Faa à Papeete.
Je vois un attroupement, des gens qui couraient, des photographes et on me dit, tu sais, il y a Jacques Brel qui part avec nous aujourd'hui. Alors je m'approche et je vois tous ces gens qui, et je voyais qu'il était très fâché. Il était incommodé par les journalistes, les photographes, il voulait qu'on le foute la paix. On est parti. Alors je lui dis, vous êtes intéressé, vous connaissez l'aviation? Il me dit, oui, j'ai mon brevet de pilote. Eh ben, je lui dis, c'est merveilleux, ben, faut piloter. Oh, il me dit, oh là là, je dois plus savoir. Je dis, pas de problème, j'ai dit au copilote, donne ta place. Et j'ai mis Jacques en place droite, je crois que c'est en place droite ou en place gauche, enfin, pour le faire piloter. Alors il était tout content, évidemment. Il avait les larmes aux yeux et on est devenus amis comme ça. c'est ça qui lui plaisait beaucoup dans notre amitié, c'est que c'était pas une amitié parce qu'il avait été chanteur ou connu. C'était simplement une amitié parce que j'étais pilote lui aussi et que ça lui faisait quelque chose de... Comme ça, c'était vraiment sincère, de part et d'autre. Parce qu'après, je disais, oh, ne me quitte pas, c'est toi qui as chanté ça, une espèce de con. C'est vrai. C'était la rigolade quand on se voyait et tout. On parlait de trucs comme ça. Puis moi, je vous disais ce que je pensais. Quoi.
Et ça ne vous surprenait pas qu'une vedette de la chanson puisse choisir d'aller se perdre au fin fond du monde comme ça ?
Non, ces choses-là m'ont jamais étonné. Je comprends très bien que Gauguin ait pu aller là-bas pour être tranquille, en dehors de l'administration et tout. Et Jacques, c'était la même chose. Ça s'est trouvé que c'est parce que Gauguin avait été avant lui là-bas. C'est le hasard, c'est le pur hasard, je pense. Mais c'est le fait que là-bas, personne ne le connaissait. C'est pour ça qu'il est... Là-bas, personne ne connaît. Jacques Brel, pour les marquisiens ou pour les polynésiens, c'est personne. C'est vous ou c'est moi. Ou... C'est la même chose. Quand Brigitte Bardot est arrivée à Tahiti, elle a fait la gueule le premier jour parce qu'elle a dit « Mais personne ne me reconnaît. » C'est épouvantable. Elle pleurait dans sa chambre. Parce que les gens ne se retournaient pas sur Brigitte Bardot.
C'est ce qui faisait plaisir à Jacques.
Mais lui, c'est ce qui lui faisait plaisir. Tandis que Brigitte, ça ne lui plaisait pas plaisir, a priori. C'est un bon pilote.
C'est un bon pilote, Jacques.
Ouais, Jacques était un bon pilote.
Il faut peut-être que vous nous précisiez, en tant que spécialiste, quelles sont les difficultés de l'aviation dans cette partie du monde. Parce que...
ouais, c'est-à-dire, c'est le survol de l'eau.
Oui. Ouais.
Alors ici, quand vous partez, vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de point de repère. Alors, le seul moyen, c'est les moyens radio. Et en allant aux Marquises, on était quelquefois plus de 2 heures sans rien. Le cap et la montre, comme on dit.
Il faut préciser à nos auditeurs que les distances sont énormes, parce que la distance de Tahiti aux Marquises, c'est Paris-Moscou. Hein.
C'est Paris-Budapest.
Paris-Budapest.
Oui. C'est 800 nautiques. Attendez, je vais regarder sur la carte exactement. Je crois que c'est 800 nautiques qui fait environ 1500 kilomètres. C'est fou. Et sur 800 nautiques, il y en a quand même... bon, avec l'avion qu'on avait à l'époque, ça faisait presque 6 heures de voyage, suivant le vent. Et des fois, on était à court d'autonomie, on était obligé de faire demi-tour quand le vent était trop fort. C'était le premier Twin Otter, il croisait à 140 nœuds. 140 nœuds, ça fait 280, ça fait 250, 260 km/h. Quand vous aviez un vent de 25 nœuds de face, on risquait de pas arriver. Hein.
On doit se sentir bien seul.
Ah oui, on se sent très seul. Oui, je peux vous dire qu'il y a certains pilotes de ligne qui sont sur DC-6 et DC-10 et 747 qui ne le feraient pas. Ils le disent tout carrément. Ils nous le disaient, vous êtes complètement cinglés d'aller aux Marquises en bimoteur comme ça, sans rien. Sans rien. Le cap, la montre, on calculait une dérive et on partait. Hein. Après, on a eu des moyens radio un peu meilleurs. Un Doppler, pour ceux qui connaissent, c'est un moyen où on peut calculer sa dérive soi-même en l'air. Mais au début, on n'avait rien. 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 Comme les premiers, comme les Mermoz et Guillaumet qui partaient comme ça.
C'est drôle que vous citiez Mermoz parce que je crois que Mermoz et Saint-Ex ont fait partie un petit peu des personnages qui ont bercé Jacques Brel et qui lui ont...
Oui, il servait de son avion pour envoyer les gens qui étaient malades. Il allait chercher, il ramenait les médicaments après avec son avion. Il faisait les évacuations sanitaires quand il y en avait. Il bougeait, il s'occupait très bien. Il s'ennuyait jamais.
Et Brel ne va pas se contenter de tisser des projets d'aéropostale entre son île et les voisines, où il aurait pu parachuter le courrier. Il se rend chez les bonnes sœurs et leur propose de les emmener au 7e ciel.
Il nous a offert un voyage en avion.
C'est lui qui pilotait ?
Oui, avec Madeleine et puis 2 sœurs. Nous étions 2, les autres, je ne sais pas, elles n'étaient pas d'attaque, nous avons été. Oh là là, ce voyage, il nous a... Alors, c'est la première fois, il a dit, je vais monter à un point, vous allez voir les 6 îles Marquises. C'est rare qu'on voit les... Tout est bleu, bleu, bleu. Et bien, il nous a montré les 6 îles Marquises. On a pu voir de son avion. Et puis, il nous a servi des... sandwich, canapé. Et je voyais ces petites graines noires. Je me demandais qu'est-ce que c'est. C'était du caviar que j'avais jamais vu avant.
Jacques Brel, complice des bonnes sœurs. Voilà qui contraste avec l'ironie de celui qui fustigeait les bigotes dans l'une de ses plus célèbres chansons. Mais Brel avait aussi été surnommé l'abbé Brel à ses débuts, en référence à un répertoire qui fleurait bon l'encens et l'eau bénite. Alors était-il encore, aux abords de la quarantaine, préoccupé par Dieu ? Réponse du père André, missionnaire à Ivaoa.
Certainement. Mais il ne voulait pas se l'avouer. L'impression que ça me donne, hein, je ne veux pas dire qu'il ne m'a pas fait de confidence hein, de ce côté-là, mais il posait des questions. Il posait des questions au prêtre, certainement. Okay. Mais alors, dans ces questions, il n'attendait pas du tout une réponse. Ça ne l'intéressait pas. C'était un jeu chez lui. Et est-ce que ce n'est pas révélateur de sa vie, justement ? Un jeu. Il voulait surtout, ce qui l'intéressait, c'était... Si j'étais assez rapide pour lui répondre, c'était un jeu. Puis après tout, il posait la question de Dieu, peut-être sous forme un peu
diffuse,
imaginée. Et tout de suite, il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vin ? Il est excellent, père. Hein, que vous en pensez ? Il disait pas père. Je pense pas. Je me souviens pas qu'il disait père. Il m'appelait André. Il avait été formé par les curés, les Augustins, qui lui avaient appris à écrire sur un secrétaire, debout. Il m'avait montré ce secrétaire. Et il n'écrivait jamais autrement, jamais assis, me disait-il. Et ensuite, il avait eu une formation religieuse, la messe, comme c'est autrefois dans les collèges, tous les matins, et tout cela, donc... Mais il me posait la question, moi je lui avais posé la question, enfin gentiment, une fois, par une de ses chansons, j'avais retenu cette phrase, et si c'était vrai, c'était à propos de l'évangile qu'il posait cette question, et si cela était vrai. Il avait souri.
Dites, si c'était vrai.
Sœur Elisabeth, devenue confidente de Brel, a sa petite idée sur ce drôle de paroissien.
J'ai dit, mais vous croyez que nous sommes bigotes ? Nous, on n'est pas des bigotes. Alors, il a dit, ah oui, je crois que non. Mais, vous savez, on a discuté, même on a parié. Moi, je disais qu'il y a 10 commandements de l'Église. Lui, il a dit, non, il y en a 8. Et c'est lui qui avait raison. J'ai dit, parce qu'il a dit, il va faire venir le film, les 10 commandements de Dieu. Hein, il dit que c'est. En effet, j'ai vu après un très beau film. Alors j'ai dit, eh ben, plus tard, il faut faire venir les 10 commandements de l'Église. Mais il dit, mais sœur Elisabeth, c'est pas 10, ce n'est que 8. Alors j'ai dit, mais non, c'est 10. Eh ben, j'ai en douce demandé au frère, au père. Le père m'a dit, mais c'est pas 10, c'est M. Brel a raison. Alors, vous voyez, hein, il est pas anticlérical. Il est... Oui, la religion est... Enfin, c'est pas à moi à juger, hein, parce que... Mais pour les sœurs ici, les prêtres ici, l'évêque ici, il était très, très, très bon et respectueux. Ça, c'est sûr.
Je crois que ce qu'il reprochait un tout petit peu à l'Église, plutôt qu'à la foi, il faut distinguer les deux choses, oui. C'est peut-être d'avoir un petit peu bousculé les traditions polynésiennes pour essayer d'implanter un peu la religion, alors oui. Qu'il y avait des traditions dans ce pays qui existaient déjà.
Oui, peut-être.
C'est le côté missionnaire à tout prix qui l'énervait un peu.
Oui, c'est ça, peut-être. Mais lui, je vous dis, mais pour les missionnaires d'ici, il est en admiration parce qu'il a dit « vous avez quitté tout ». Hein, pour venir ici, pour vous occuper de ce peuple, je suis en admiration. Et pas pour gagner votre vie, parce qu'on n'est pas payé, tout ça. C'est pour vraiment, gratuitement.
La suite au prochain épisode de Brel.
Aux marquises.